André Berkoff, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir sur Frontières. Vous êtes journaliste, écrivain et homme de radio qu'on ne présente plus. Depuis plus de 50 ans, vous observez la vie politique, les transformations de la société française et les grands bouleversements médiatiques de notre époque. Vous avez connu une presse différente et aujourd'hui, on voulait vous recevoir au titre de la sortie de notre nouveau magazine, c'est « Pédocriminels parmi nous ». Et on voulait avoir votre regard sur ce sujet particulier de la pédophilie en France. Et on vous reçoit aujourd'hui pour revenir sur plusieurs affaires qui ont profondément marqué l'actualité récente. Évidemment, le meurtre de Liana, le scandale du périscolaire parisien, les défaillances de la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, mais aussi, surtout, le silence qui entoure encore en France certains de ces aspects. Et donc, à travers ces dossiers, il y a une même question qui se pose, une question centrale. Pourquoi la France éprouve autant de difficultés à regarder en face les violences commises contre les enfants, à entendre la parole des enfants? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec votre regard de journaliste et votre expérience. Vous parlez dans notre magazine d'une culture de l'impunité. Comment expliquer une telle culture de l'impunité envers la pédophilie en France?
Écoutez, auparavant, d'ailleurs, ce que vous venez de dire me permet d'évoquer une expérience personnelle qui date maintenant de pratiquement 35 ans quand je dirigeais une émission sur France 3 que j'ai fait pendant 4 saisons qui s'appelait « Français si vous parliez ». C'était une heure de grande écoute sur France 3, donc on allait un peu partout en français. Un de mes collaborateurs m'avait proposé une émission sur la pédophilie dans Lyon. Je ne sais pas si vous avez parlé de cela, je n'ai pas lu encore tout le journal, mais excellent d'ailleurs, ce que j'en ai lu. Ce qu'il y avait, c'est qu'à l'époque, donc, on voulait faire ça, il y avait, vous savez, c'était les disparus de Lyon, c'était le chauffeur, c'était à Poigny où il y avait des histoires assez atroces de quelqu'un de torture, etc., tarifé et tout, enfin bon. Et on avait commencé à faire une enquête, et les collaborateurs avaient commencé à faire l'enquête, et il y avait, je me rappelle, deux juges, que je ne nommerai pas ici, parce que je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou morts, je ne sais pas, mais qui avait accepté de parler. Et donc, on avait préparé l'émission, et c'était vraiment, on avait des choses très très fortes, et je me rappelle très bien avoir vu des documents, des photos assez terrifiantes de l'époque, dont c'était en France, hein, dans Lyon. Et à la dernière minute, eh ben, les deux juges se sont récusés en disant « on ne peut pas ». C'était des juges qui étaient certains déjà à la retraite, donc je pense qu'ils ne sont plus là, j'ai plus de... Et qui m'ont dit « non, on ne peut pas parler parce qu'il y a des dangers pour notre famille et on ne peut pas le faire ». Donc, ce que je veux dire par rapport à ce que vous venez de dire sur l'impunité vient aussi des menaces qui sont proférées, on le voit encore aujourd'hui, à l'égard de ceux qui ont le courage de dire ce qui se passe. Et je vous dis, ces deux juges, je me rappelle, on n'avait pas pu faire l'émission parce que l'émission reposait sur le témoignage de ces juges et ça n'avait pas pu se faire. Au-delà de cette expérience-là, il y a quand même un problème majeur qui est que on le sait, tout le monde le sait, on en parle depuis longtemps, depuis des décennies. D'ailleurs, ça se passe, c'est mondial, ce n'est pas seulement en France, évidemment. Dans toutes les institutions, dans tous les domaines, il y a cette espèce de non-dit assez horrible qui est, parce que c'est quoi? C'est le massacre des innocents. Pas seulement une figure de style ou des très beaux tableaux dans les églises, le massacre des innocents. C'est aussi que, quotidiennement, encore, et ça paraît impossible dans des pays dits avancés, etc., on massacre, on tue des innocents. Quand je dis on tue, dans tous les domaines, parce que même si la personne n'est pas morte, elle peut être morte psychologiquement, et ne parlons pas de la famille. Donc c'est quelque chose qui est terrible, parce que pour moi, la chose la plus grave, enfin la plus, je dirais pas la plus innommable, c'est qu'on s'attaque évidemment à des personnes sans défense, jusqu'à des bébés. Vous savez, c'est, enfin... On ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu des choses, des photos et des films horribles, mais même pas horribles, insoutenables. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et cette impunité, eh bien, elle vient, on pourra en parler, elle vient, je crois, de beaucoup de choses, de gens qui ont les moyens d'étouffer les affaires, de gens qui font qu'on n'a pas envie d'en parler parce que ça dévoile un pan de la nature humaine qu'on préfère refouler en non, non, ça n'existe pas. Ou alors on passe, c'est la poussière sur le tapis, on se refile la patate chaude. Non, 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 il y a un circulaire, rien à voir. Et puis il y a ce sentiment de honte. Mais enfin, il faut le poser, il faut mettre sur la table. Rousseau est très gentil, Jean-Jacques, je ne parle pas de Sandrine, mais Rousseau disait oui, l'homme est bon, la nature le dégrade. Oui, attendez, peut-être, enfin, on peut trouver toutes les excuses, mais on ne peut pas accepter et on ne peut pas ne pas réagir quand il y a des gens, et ce sont une minorité évidemment, mais une minorité agissante, qui font que des consciences, que des bébés, que des jeunes sont massacrés, et quand je dis massacrés à vie, même s'ils survivent à des choses qui devraient être absolument plus que sanctionnées.
Évidemment. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de la France et des Français? Il y a quelque chose qui a été très choquant, enfin, une affaire récente, c'est le scandale du périscolaire parisien, oui, qui a révélé des dizaines de signalements et de suspensions. Mais comment expliquer qu'un tel scandale n'a pas été, par exemple, un thème de campagne, la dernière campagne des municipales, sachant que...
Mais c'est, d'ailleurs, alors là, vous avez tout à fait raison de poser la question. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, évidemment, la majorité régnante n'avait pas intérêt que ça se sache. Et pourtant, l'actuel maire de Paris était évidemment dans le conseil municipal, et je crois avait quelques... Non, je ne dirais pas responsabilité, mais enfin, avait quelques connaissances. Mais au-delà d'un procès personnel... C'est que, évidemment, si j'ai le pouvoir et qu'il y a des failles comme ça, ce n'est pas des trous dans la raquette, mais des béances, j'ai intérêt à cacher. Ce qui est très intéressant est la question, pourquoi l'opposition, car il y a une opposition à Paris, il y a toujours une opposition, a fait profil bas là-dessus. Question, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je ne comprends pas que pouvoir et contre-pouvoir, quand on est dans une opposition, la première des choses à faire, c'est de dire, écoutez, il se passe ça, et de le dire haut et fort. Il y a quand même, la presse n'est pas muselée, vous en êtes la preuve, et il y a d'autres preuves aussi. Donc pourquoi il n'y a pas eu, effectivement... Alors, est-ce qu'il avait de leur côté aussi des choses à cacher? J'en sais rien, on ne va pas faire des hypothèses et des spéculations. Mais il y a quand même problème, c'est qu'un tel scandale, on en parle depuis déjà des années et des années, il y a eu des publications, il y a eu des gens comme Carl Zéro, comme Pierre Barnerias, comme beaucoup d'autres... Puis il y a eu, enfin, vous en parlez dans votre magazine, le Matzneff et compagnie, ce qui est le manifeste dans Libération, la pétition, etc. Bon, tout ça a été connu, ça fait des décennies ou presque. Ce qu'il y a, c'est qu'on constate que quand il y a une affaire précise qui est là, qui est un scandale précis, où il y a eu des dizaines de témoignages. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui, mais attendez, le procès n'est pas fait, il faut attendre le procès. Présomption d'innocence, je veux bien. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses? Oui. Tout le monde admet, y compris à la mairie de Paris, qu'il s'est passé des choses. À partir de ce moment-là, on devrait tous, enfin les journalistes, les médias, enquêter, savoir ce qui se passe, creuser et en parler. Et c'est vrai pour la France comme c'est vrai pour d'autres pays, hein. On le sait. Et l'affaire Epstein, n'en parlons pas, enfin si vous voulez, on en parlera. Mais en deux mots, ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose qui consiste à dire... Écoutez, et vraiment, je reviens à ça. L'homme est bon, c'est la société, vous savez, pour certains, qui le déprave. Je ne sais pas. Est-ce que l'histoire de science est du bien du mal, sans faire de métaphysique? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, effectivement, ont cette tentation, cette monstruosité qui est là, et qu'au lieu de savoir si, effectivement, la société est coupable ou pas, arrêter le massacre, arrêter en tout cas le délit, et pas attendre... Que les choses se fassent, se persistent et se continuent. Après, deuxième volet, il y a la puissance, il y a l'impunité. Et je pense que chez certains nombres de personnes, le pouvoir de la puissance et de l'impunité, il n'y a qu'à relire Sade et compagnie, vous savez, la littérature dit beaucoup de choses là-dessus, et Sade, c'est le 18e siècle, hein, c'est pas nouveau. C'est que le sentiment de pouvoir, c'est Tucidide disait, on va jusqu'au bout de son pouvoir. Donc, quand je n'ai pas une colonne vertébrale, une morale, etc., je me dis, mais je peux tout faire. Je peux tout faire, et alors? Bon, ben, c'est des enfants ou c'est des gosses, etc., et alors? J'ai le pouvoir sur tout. Je peux le faire sur les adultes, je peux le faire sur les enfants. Ce qui compte, c'est de satisfaire mes pulsions. S'il n'y a pas, en face, quelqu'un qui vous dit, attendez, hein, il y a un moment donné, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, et ben j'y vais. Et c'est ce qui se passe.
Il y a ce que le pouvoir peut faire, mais il y a aussi ce que le peuple peut faire.
Oui.
Et ça a beaucoup choqué peut-être le reste de la France qu'à Paris, ça commence à savoir qu'il y avait ce scandale du périscolaire et qu'en fait les Parisiens ont revoté pour l'équipe en place, sachant qu'il y avait un scandale pédophile qui émergeait.
Mais est-ce qu'ils le savaient ? Est-ce que honnêtement, à l'époque, je parle de la majorité des Parisiens, est-ce qu'ils le savaient ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce qu'il faut voir, parce que moi je suis parisien aussi, je vois. Honnêtement, il y avait eu vent de cela. Bon, nous on savait parce qu'on est dans un milieu où on le sait plus, mais je trouve qu'il n'y a pas eu avant, mais je vous dis que fait l'opposition, ou que font les gens qui sont chargés de transmettre. Moi je dirais que pour la plupart des gens, parce que je me rappelle, on avait fait quelques émissions là-dessus, je crois que vraiment, c'est pas pour les... Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas du tout conscience que c'était à ce niveau. Parce que le scandale a éclaté, franchement, après, pratiquement, enfin pendant, mais très très peu, et après la réélection. Donc, si vous voulez, les gens entendent des choses. Il faut bien se mettre dans la peau de quelqu'un qui dit « Oui, mais c'est des rumeurs. Est-ce que vous avez des preuves ? Est-ce que ça a été jugé ? Etc. Non, c'est pas. On a entendu. Oui, mais non, vous savez, c'est des rumeurs. C'est pas vrai, c'est exagéré. Il y a 2 personnes et demie qui sont responsables. Le reste, pas du tout. La majorité, ils sont blancs comme neige, absolument. » Donc, là, je crois que votre question pose le problème de la vigilance permanente. Devant ça comme devant autre chose. Est-ce que le contre-pouvoir n'est pas là pour dire « Attention, il se passe ça, et ça, et ça. » Et en permanence. Pas seulement en période électorale, mais en permanence, de façon à ce que les gens sachent. Or, vous savez très bien que, d'abord, les 3/4 des médias, qui a vraiment parlé, qui a fait les grandes enquêtes sur le périscolaire ? Vous pouvez les compter sur les doigts de la main. Et ça pose vraiment le problème du mensonge par omission, ça pose le problème de savoir... qui veut dire quoi, et surtout, si ça dérange les intérêts de telle ou telle faction qui veut le pouvoir, il est évident, mais c'est la nature humaine, et ça c'est vrai à droite comme à gauche, qu'ils mettront sous le boisseau des choses qui peuvent aller contre leurs intérêts. D'où, encore une fois, vraiment, je persiste là-dessus, c'est très important, il faut une vigilance permanente, un contre-pouvoir permanent, et puis c'est la mission, en tout cas, des journalistes indépendants, des médias indépendants, de dire voilà ce qui se passe. Après, les gens écoutent ou pas, mais je crois vraiment qu'en l'occurrence, l'information n'a pas tellement circulé avant les élections.
En parlant de scandale pédocriminel, il y en a un mondialement retentissant, c'est l'affaire Epstein.
Bien sûr.
Il y a un volet français dans l'affaire Epstein. Et là, c'est pareil en France, c'est l'Omerta.
Alors ça, c'est l'exemple parfait. Le 22 avenue Foch, je crois que c'est le 22 ou le 29, je ne suis pas sûr du numéro, avenue Foch, où Epstein avait un superbe appartement. Et puis on a parlé du parfumeur, enfin de l'esthétique, du chasseur de mannequins qui était avec lui, Brunel, etc. Bon, on en a parlé, la police a enquêté. Vous avez entendu des choses ? Non. Vous avez eu des choses où ils ont dit oui, ah, il y a eu des choses, etc. Rien. Alors, on revient à la chose. Qui était impliqué, combien de gens étaient impliqués, combien de gens participaient à cette espèce de trafic, comme vous dites, international. Et vous savez, c'est tellement formidable. Il n'y a pas que Epstein l'a fait, mais Epstein l'a fait de façon industrielle, ce qui est peut-être une première, en tout cas. C'est-à-dire que la chose est là. Il y a ces espèces de pulsions. Il y a des gens qui ont des pulsions. Ben, pulsions plutôt, d'ailleurs, assez innommables et nauséeuses, il faut le dire. Et il y a la tentation, évidemment, d'amener soit des politiques, soit des industriels, soit des gens de pouvoir, de les mettre en sorte dans des situations où on les filme. On les filme, pourquoi ? Parce que comme ça, on a le chantage. Il ne faut vraiment pas du tout négliger cette arme du chantage. Moi, je suis cynique, je ne suis pas du tout, organisateur, etc. Je ne suis pas pédophile, pas du tout, mais il faut que je piège celui-là. Pourquoi ? Celui-là, j'en ai besoin. Par rapport à mes intérêts géopolitiques, mes intérêts stratégiques, mes intérêts économiques et industriels, etc. Comment je le piège ? Le sexe, pas nouveau, c'est vraiment, je dirais, presque millénaire. Et comment je fais pour le piéger aujourd'hui ? Avec la technologie, très simple. Je veux dire, je vais lui présenter des garçons, des filles, de tout ça, oui, mais bon. Et puis, dans un lieu évidemment confidentiel et discret, mais truffé de caméras, truffé d'enregistreurs, enfin voilà. Donc, cette arme-là a servi énormément, parce qu'après, ben, il est à ma merci. Parce que s'il ne fait pas ce que je vais lui dire politiquement, stratégiquement, économiquement, industriellement, telle ou telle chose, eh ben, on va sortir les preuves. Donc, s'il sait, lui, il sait que les preuves existent, puisqu'il a été... Donc, il va la fermer. Et il ne va rien dire, et il va suivre, et il va obéir. Je crois qu'il est là. C'est un des pièges extrêmement importants, c'est qu'on se tient les uns les autres par cette espèce de secret honteux, sauf que ce secret est enregistré et filmé et numérisé dans des endroits très précis, et on le tient.
Est-ce que vous pensez qu'on aura le fin mot sur le scandale de l'affaire Epstein, ou est-ce que vous pensez que ça va être définitivement mis sous le tapis ?
Alors écoutez, ça c'est une vraie question. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que le lieu c'était aux États-Unis. Au début, ils disaient, non, parce qu'il y a eu deux choses qui ont été très frappantes. Parce que quand on a dit, ah oui, Trump est en train de voir enterrer l'affaire Epstein, etc. Sauf que pendant 4 ans, et c'était bien après, les démocrates avaient le pouvoir. C'était Biden. Pourquoi ? Et voilà la question première à se poser. Pourquoi ? Pour empêcher, il aurait empêché. Si Trump était, enfin Trump et son entourage, étaient mouillés dans l'affaire Epstein vraiment, bah, je suis démocrate, je sors ça tout de suite. Trump est mort. Donc pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Donc, alors d'après Assange, c'est que Trump n'était pas mouillé dans cette affaire. J'en sais rien, je ne connais pas assez le fin fond de l'histoire. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vrai, qu'ils ont dit, Tulsi Gabbard et tout l'entourage, ils ont dit, on va sortir les papiers Epstein. Ils ont, comme vous le savez, déclassifié 3000 à 4000 pages, mais la chose ne sort pas. Elles sont déclassifiées. Simplement, aucun journal ou aucun média n'a donné en disant, voilà, il y avait tel, 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 tel. Alors, ils ont donné des noms, mais alors, qu'est-ce qu'ils font ? C'est très intéressant, vous voyez, c'est habile. Ils mélangent. C'est-à-dire que Epstein était, comme on dit, il fréquentait la jet set américaine, le tout New York, etc. Donc, il mettait en même temps et au même niveau quelqu'un qui l'a rencontré à un cocktail qui lui a serré la main et quelqu'un qui est allé sur son île. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils ont mis ça. Alors, on dit, oui, mais attendez, moi, non, mais moi, oui, j'ai rencontré Epstein comme j'ai rencontré n'importe quel type du tout New York, etc. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour le moment, c'est ça. Et pour répondre à votre question, j'espère que ça va sortir, parce que ça me paraît la moindre des choses que de dévoiler. Mais on peut vraiment, encore une fois, on se repose la question, qui protège qui et qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, pas un média, et pourtant les médias américains, honnêtement, liberté d'expression, article premier amendement de la Constitution américaine, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le problème a été purgé, éclairci.
Je ne sais pas si on fait quelque chose, enfin, c'est sûr qu'on ne fait rien par rapport à la pédophilie, mais moi j'ai l'impression qu'on en parle quand même un peu plus qu'à une certaine époque.
C'est certain.
Est-ce que vous avez partagé ce sentiment aussi ou...
Oui, tout à fait. Je veux dire que la chose aujourd'hui est beaucoup plus en place publique, mais d'autant plus, oui, mais vous avez peut-être, je vous laisse peut-être...
Ah non, allez-y.
Alors c'était ça. Non, moi je suis très frappé. Enfin, il y a un changement d'attitude, il faut le reconnaître, parce que... Moi, je me rappelle de Libération publiant, vous savez, la fameuse pétition, mais oui, on peut avoir quand même des relations avec des moins de 16 ans, etc.
Parce qu'ils sont consentants.
Voilà, etc. Oui, avec cette fameuse couverture que vous disiez d'ailleurs votre magazine, oui, c'est ouvert, etc. Et ce qui me... Je vais vous dire, moi, puisque j'ai vécu 68, etc., ce qui est très... plus que gênant, je trouve, c'est qu'on a mélangé, et au nom de, vous savez, il est interdit d'interdire, hein, jouir sans entrave, etc. Et c'est très drôle, le wok a reproduit ça, tout se vaut. Alors, je ne veux pas comparer, mais quand même, si vous voulez, aujourd'hui, quand il y a la déconstruction biologique du wok en disant, vous savez, un homme, il n'y a pas un homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de genre, y a pas, enfin, tout ce que vous connaissez, toute cette littérature, pour moi, elle me rappelle totalement, mais oui, tout est possible, il n'y a pas de problème, au nom de quoi vous allez interdire un enfant à sa sexualité, et alors, etc., en cachant évidemment totalement la manipulation assez sordide qu'il peut y avoir et que tous les psychologues de l'enfance vous expliqueront mieux que moi. Donc, il y avait à l'époque une espèce de climat disons, oui, mais écoutez, tout est bien, mais qu'est-ce que c'est, on en a marre de cette morale bourgeoise, etc. Bon. Et il y avait des bons côtés dans certains trucs. Côté, vous savez, comment dirais-je, on est ouvert, on se voit. Moi, je le dis encore, je persiste et je cite, il y avait des côtés positifs dans mes 68. Et il y avait cette espèce de côté, alors c'est face cachée, le darknet, disons, ce côté absolument visqueux, et plus que visqueux, de dire oui, mais tout est possible. Le problème est là, on ne peut pas dire ça. Je veux dire qu'on ne peut pas dire, vous savez, tout est permis. Non. Ou vous avez une morale, si vous êtes croyant, vous dites si. Voilà, c'est Dostoïevski, la phrase connue, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais si la morale n'existe pas aussi, tout est permis. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter le tout est permis. À ce moment-là, ben, tout est permis, faisons Auschwitz, faisons ceci, faisons cela. C'est-à-dire, c'est valable dans tous les domaines. Et encore une fois, où est le curseur, où on met le curseur, c'est qu'une personnalité, une personne innocente, faible, et en tout cas quelqu'un qui n'a pas les pouvoirs de se défendre, ne peut pas être traité comme un adulte qui a déjà l'esprit critique, etc. Donc déjà ça, ça ne devrait même pas être discuté ou discutable. Et là, il y a eu ces débordements, effectivement, mais qui ne datent pas de 68, encore une fois, je tiens à le dire, parce que, vous savez, rappelez-vous, enfin, les affaires de pédophilie terrifiantes dans certains séminaires, il faut le dire aussi, dans certaines églises, dans certaines chapelles protestantes, en Angleterre, il y a eu des histoires terribles d'enfants maltraités, violés, tabassés. Et puis enfin, il y a aussi, là, plus récemment, enfin, pour moi, le scandale des scandales, mais tout ça, c'est lié, c'est totalement lié, les grooming gangs en Angleterre, avec ces gangs pakistanais et bangladeshis qui ont esclavagisé, tabassé, torturé et tué une partie 200 à 250 000 jeunes anglaises de 12 à 14 ans, même de 10 à 14 ans. Pendant 20 ans, 30 ans, et je ne sais pas si ça continue encore dans certaines villes anglaises, hein, on n'est pas loin, hein, on est à côté, et les services sociaux savaient, la police savait, les municipalités savaient, mais oui, mais on va passer pour des racistes. C'est un exemple, mais vous voyez, partout c'était comme ça. On ne touche pas à l'église à l'époque, au 19e, on ne touche pas à Bétaram, on ne touche pas à ceci, on ne touche pas à cela. Vous savez, personne, à gauche comme à droite, il ne faut pas avoir de tabou. Que ce soit n'importe quelle puissance, n'importe quelle institution, n'importe quelle personne qui se sent protégée de par ses attributs, la saloperie, c'est la saloperie. La saloperie n'est pas de droite, la saloperie n'est pas de gauche, la saloperie n'est pas d'une ethnie, la saloperie n'a pas de couleur, la saloperie, c'est la saloperie. Quels que soient les salauds et les ordures, eh ben, il faut les combattre. Quel que soit. Sinon, on retombera toujours dans la même chose. Oui, ça c'est. Oui, attention, c'est les salauds, mais ce sont nos salauds. Donc, c'est pas, je ne veux pas les traiter de la même façon. Très important, parce que ça a été ça tout le temps. Attention, oui, c'est vrai, mais ils ont des excuses. À partir du moment où vous acceptez les excuses, parce que c'est dans votre camp, c'est fichu, c'est mort.
Et comment lutter contre ce fléau? Comment sanctionner la pédophilie dans nos sociétés? Certains parlent du retour à la peine de mort, d'autres de la castration chimique. C'est quoi votre point de vue là-dessus?
Moi, je dirais sanctionner durement. Moi, là-dessus, je suis effectivement... je trouve que c'est un vrai crime. Vous savez, quand on a, encore une fois, j'en parlais un jour avec Olivier Marchal, le metteur en scène, qui en a été à la police, il a vu des trucs terrifiants, et moi je vous dis, j'en ai vu aussi, enfin, des films, ou des, enfin, peu importe. Moi, très sincèrement, quand j'ai vu ça, très sincèrement, je vois les personnes qui font ça, j'ai aucune pitié. La peine de mort, ça ne me gêne pas du tout pour ces assassins d'enfants. Vraiment pas. Castration chimique, si vous voulez, mais pourquoi ces gens-là méritent de vivre? Je vais vous dire, au fond, il y a un écrivain français qui a écrit, et c'est à mon avis, je suis contre la peine de mort, tout à fait, à une condition, que messieurs les assassins commencent. La peine de mort, elle est appliquée tout le temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut réappliquer la peine de mort tout le monde à tort et à travers. Je ne suis pas du tout pour un rétablissement comme elle l'était avant. Mais je ne vois pas pourquoi, très sincèrement, les assassins d'enfants devraient être condamnés à 30 ans de prison, ou etc. Pourquoi eux méritent de vivre alors qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? De ce point de vue, je sais que je ne suis peut-être pas dans la doxa et peut-être la majorité, mais j'ai un problème. Mais je ne rétablirai pas la peine de mort générale. Mais pour ce genre de choses, très sincèrement, je n'aurai aucun empêchement de dormir si ces gens qui ont torturé, qui ont tabassé, qui ont éviscéré, qui ont... Enfin bon, voilà, ils sont là, regardez les grooming gangs en Angleterre, bon ben ils sont en prison, et encore, ils sont en prison pour quelques années, tout va bien, voilà. Ils sont logés, nourris, blanchis, non. Non, je crois que la société devrait en même avoir le droit de se faire justice au bon sens du terme, et je crois que le droit de dire, encore une fois, de poser des règles. S'il n'y a pas de règles, encore une fois, c'est enfin, j'ai l'impression de dire des banalités de base, mais apparemment, non, ce sont... Apparemment, c'est des énormités de base. Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Moi qui n'ai rien demandé, vous qui n'avez rien demandé. Les 90% de la population vaquent à leurs occupations, vont faire leurs trucs, font peut-être des faiblesses, font des conneries, font du... Voilà. Ils se font au hasard pour un téléphone, pour etc., tabasser, couper, etc. Et alors ? Et là, on dit, ah oui, mais les excuses, oui, mais vous comprenez, ils n'ont pas les codes culturels, ils ont vécu de la misère. Attendez. Oui, mais moi, je n'ai rien demandé. Ces gens-là et ces gosses et tout ça n'ont rien demandé. Ah, mais oui, mais c'est comme ça, il faut comprendre. Il faut comprendre, oui. Mais il faut aussi comprendre les autres.
Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème avec la justice de s'intéresser beaucoup au profil des agresseurs et très peu à celle des victimes, à celui
des
victimes ?
Oui, vous savez, je ne sais pas qui a dit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un... Qui a dit, et j'avais vu ça il y a... Vous savez, quand vous êtes indulgent avec les criminels, vous condamnez les innocents. Faut le dire, c'est-à-dire 90% des populations n'ont aucun instinct de mort, aucun instinct meurtrier, ne veulent pas tuer, se comportent que peut-être comme des salauds ou des canailles. Ça, c'est autre chose à discuter. Là aussi, chacun, la justice peut jouer, enfin, etc. On ne dit pas qu'il n'y a pas les anges d'un côté et les salauds de l'autre. En revanche, quand vous ne condamnez pas quelqu'un qui... Attention, il faut faire la preuve, il faut voir ce qui s'est passé. Mais quand vous ne condamnez pas quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, eh bien, vous condamnez les gens qui eux, n'ont rien fait. Parce que même s'ils ne sont pas les victimes eux-mêmes directes de ce qui se passe, il est là, vous savez, je crois que c'est Bukele, le président
du
Salvador.
Oui.
Je crois que c'est lui
qui a dit ça. C'est le président du Salvador, il me semble, voilà. Qui a dit ça. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, l'institution judiciaire, enfin, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Liana, pardon. On a vu que Jérôme Barella avait été signalé, il y avait plusieurs plaintes récentes, on a eu le témoignage bouleversant de la maman de la petite Rosa. Et finalement, c'est toujours un peu la même chose dans ce genre d'affaires. On savait.
Oui, et je vais vous dire ce qui m'a un peu choqué, parce que, encore une fois, je ne mets pas du tout tous les juges dans le même panier, surtout pas. Mais enfin, il y a eu dysfonction, comme il y a eu, c'est clair, comme il y a des dysfonctions là, bon. Mais que, ok, au lieu de reconnaître la dysfonction, attendez, personne n'est parfait, ni les journalistes, ni les juges, ni personne. Il y a des gens qui sont bons, des gens qui sont déficients, il y a des gens qui ne vont pas. Au lieu de dire, oui, écoutez, nous sommes tous les procureurs d'Auche. Vous avez vu la mobilisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Moi, écrivain, journaliste, essayiste, si un écrivain fait une saloperie, je vais dire, bon, c'est peut-être un bon écrivain, je ne sais rien, mais c'est un salaud, il a fait une saloperie. Et moi, si je fais une connerie, je dirais, oui, je me suis trompé. Enfin, c'est la moindre des choses. Je vais dire, ah non, on est corporatistes, on est solidaires. Mais arrêtez, corporatiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Corporatiste, c'est encore un mot pour cacher, c'est le mot encore pour préserver, c'est encore un mot pour mettre sous hublot, pour raboter, pour mettre sous vide une situation scandaleuse. Mmh. C'est ça qui est le problème. Voilà, la justice, encore une fois, jamais il faut généraliser. Mmh. Les juges, ça ne veut rien dire. Les journalistes, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui font formidablement et très bien leur métier, et d'autres qui font n'importe quoi. Eh bien, les n'importe quoi, leur profession elle-même, il faudrait que leur profession se dise attention. Ça se fait partout, ça s'appelle la déontologie, sauf chez certains. Ben non. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, c'est ça le problème, il ne peut pas y avoir d'exception là-dessus. Il faudrait que, voilà, on sait qu'on ne va pas résoudre le problème complètement, mais sur la justice, et vous avez raison, parce qu'à la fin, ça arrive à la justice, quand il arrive quelque chose comme Rihanna, Attendez, au moins, le dit, mais vous avez vu Outreau ? Où ont été les condamnations ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le juge Burgot ? Il a été transféré. Qu'est-ce qui s'est passé avec le juge qui proposait sa fille de 12 ans hein, sur Internet ? Sa propre fille à lui, à prostituer. Bon, mais il a été, je crois, muté, ou il a eu... Bon, enfin, c'est quoi, ça ? À partir du moment où on voit ça, je voulais que disent les gens. Ah bon, oui, mais... Il faudrait que je passe entre les gouttes et surtout que je ne me retrouve pas dans cette situation.
D'ailleurs, en revenant sur Outreau, ça reste encore, dans l'imaginaire collectif, le symbole de l'erreur judiciaire. Oui. Si vous allez demander à n'importe quel Français, vous parleront d'une erreur, voilà, les accusés à tort d'Outreau, pardon. Comment expliquer qu'on en soit encore là, alors que maintenant on a plus fait la lumière sur ce dossier-là.
Oui, on en fait une la lumière, mais si vous voulez, vous savez, il y a eu des suicides, il y a des gens qui ont fait 3 ans de prison pour rien. Je connais plusieurs des avocats qui ont effectivement traité qui étaient là dans cette affaire. C'est une affaire terrifiante. En plus, c'est dans le lumpen prolétariat, vous savez, c'est pas là la bourgeoisie, Emilia. C'est pas Epstein, hein. C'est l'autre côté, complètement l'autre côté d'Epstein. Bon, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas seulement le gang des milliardaires, etc. C'est peut-être plus facile, là. Mais en bas aussi, c'est pas une question de classe. C'est pas une question, c'est une question de voilà, où les gens se sentent, et pas seulement les, voyez, les gens de pouvoir, se sentent parce qu'ils sont avec des innocents, donc que je sois pour ou pas. Oui, mais celui-là, je peux rien lui faire, parce qu'il va pas me casser la gueule, lui. Donc moi, je peux moins lui casser la gueule, mais lui, il peut rien faire. Donc j'y vais. Parce que je suis une ordure, si je fais ça. Mais je m'en fous d'être une ordure, je le fais. Et pour Outreau, pour revenir à Outreau, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Vous savez, à partir du moment où il n'y a pas une vraie sanction, on ne va pas au bout de l'éclaircissement. Si on ne va pas au bout de l'élucidation, bah, les gens diront, oui, mais il y a des trucs.
Oui.
Ouais. Et ça reste
là. Dans la tête des Français, les accusés d'Outreau ont été innocentés.
Oui, alors, ce n'est pas exactement ça. On n'a pas le détail. Il y a eu quand même des condamnations, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des gens qui ont été injustement condamnés, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien fait. Je vous dis, je pense à cette personne qui a fait 3 ans de prison, et on lui a dit, c'est l'avocat, il m'appelle, et c'était quelqu'un, je ne sais plus son nom, je crois que c'était un des chauffeurs, je ne sais pas, et on lui avait dit, c'était pour Outreau. Il a dit, mais je suis innocent. Ah oui, parce qu'il avait fait de la préventive énormément, il a dit, je veux sortir. Et il dit, mais oui, mais vous ne reconnaissez pas ce que vous avez fait. Je ne reconnais pas parce que je ne l'ai pas fait. Ah ben alors, vous restez en prison. Voilà, les méandres d'une certaine justice.
Oui, mais à Outreau, il y a bien eu des actes de pédophilie et les enfants ont été reconnus victimes.
Bien sûr.
La justice. Ouais.
Bien sûr. Non, mais c'est pour ça, il y a eu les deux, si vous voulez, ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'on a préféré après dire, bon, ben, ouais, Outreau, ça a été jugé, c'est bien, et mettre sous le boisseau. Mais le problème aujourd'hui, regardez, vous n'avez pas besoin de remonter. Pourquoi le périscolaire ? Pourquoi on n'y travaille plus ? Pourquoi on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment ? Pourquoi il y a eu, alors, deux relaxés ? Alors, je ne sais pas. Bon, je ne veux pas juger, je n'ai pas le dossier. Je ne peux pas me permettre de juger. Bon, il a été relaxé peut-être pour des bonnes et de mauvaises raisons, mais creusé, ce n'est pas fini. Il y a eu quand même une affaire qui a concerné des dizaines, voire une cinquantaine de personnes dans le périscolaire, engagées comment, etc. Allez jusqu'au bout. Mais restons là-dessus. Allons jusqu'au bout. Est-ce qu'un pays comme la France est capable de traiter ces affaires à fond ou pas ? Oui, mais vous comprenez l'encombrement. Mais voilà, ils vont dire, oui, mais on n'a personne. On n'a pas le temps. Regardez, il manque de personnel, manque de ceci, manque de cela. Regardez, ils envoient encore par courrier, donc on met 15 jours, enfin, etc., etc., etc. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent ? Ben, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, moi, mon problème, c'est que moi, mes enfants, mes trucs, soient un peu... je vais leur donner toutes les règles. C'est-à-dire qu'on va vivre dans un... Et on vit déjà dans un univers où le problème, on est la prudence. C'est même pas le principe des précautions. Ça va être la vie de précaution. Attendez, la vie est un métier à risque. On leur a surtout fait attention. Fais attention. Comment voulez-vous que le type avance, que la personne, la garçon, la fille avance, si on lui dit attention, fais ça, attention à ci, attention à ça, attention à... Ben, je ne sais pas. Ce n'est pas, je crois, un meilleur principe pour avancer dans la vie.
Enfin, le principe de précaution, ça dépend où on le place aussi.
Bien sûr.
Parce que le principe de précaution devrait peut-être profiter à la parole de l'enfant.
Oui, sauf que le principe de précaution serait merveilleux pour la parole de l'enfant si, encore une fois, on agissait. On revient toujours au même point. Poser un principe, c'est parfait. Ce n'est pas le principe, la vie. Hein. La vie ne se résout pas avec des principes, la vie se résout avec des actes. Si vous n'avez pas des actes, encore une fois, que ce soit pour Outreau, pour le périscolaire, pour Epstein, etc., si à un moment donné, ça prend du temps, très bien, ça prend du temps, on ne dit pas que ce n'est pas un jeu vidéo, hein, ça ne se fait pas en 2 secondes et demie. Mais si vous n'avez pas des actes précis qui voient que telle personne est en prison, ou que telle personne a été condamnée, ou que telle personne a été durement sanctionnée, ben les gens diront, ben non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque personne n'est sanctionné, ou presque.
Les actes, c'est d'abord la politique. Est-ce que vous pensez qu'on est face à, finalement, un problème politique ?
Ah, on est face à une démission. Mmh. On est face à une démission, je crois, qui est à la fois politique, qui est à la fois judiciaire, mais que je dirais qui est surtout morale. Je crois qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème qui est, et on le voit, vous savez, je viens de voir la bataille de Gaulle, là, les 2 épisodes. Je crois qu'il y a un problème de... Le vrai, vrai, pour moi, fondamentalement, c'est un problème de courage, de colonne vertébrale, d'entêtement et de tir, on tient le coup et on ne lâche rien. Et ça, c'est évidemment difficile. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais c'est ça qui sauve un pays, une nation, une civilisation, une morale. C'est-à-dire que c'est très bien de parler, on est le ministère de la parole, on parle, mais s'il n'y a pas des gens qui disent « attendez, on ne va pas lâcher l'affaire, on va aller jusqu'au bout de cette affaire », quelle qu'elle soit, et on va vraiment faire. Moi, je vois l'histoire de Gaulle, c'est intéressant, dans un autre ordre d'idée, mais c'est là. De Gaulle, c'était rien. De Gaulle, en 40, c'était un colonel. Il est quoi ? Il part à Londres avec 2 pelés, 3 tondus. Et il dit, la France, c'est moi. Tu te prends pour qui ? T'es quoi ? T'es un espèce de mythomane, tout ça. On voit très bien ce qui se passe avec Churchill, avec Giraud, tout ça, qui l'accueille, les Américains, etc. etc. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je veux dire par là que ce soit en politique, que ce soit en justice, que ce soit en déontologie, que ce soit dans n'importe quel métier, les gens qui sauvent, ils sont toujours une minorité, les gens qui sauvent sont les gens qui vont jusqu'au bout et qui mettent ce que the skin on the table, la peau sur la table. Voilà. Mettez la peau sur la table, c'est évidemment beaucoup moins aisé, mais c'est ça qui fait.
Vous croyez que les Français sont encore capables de ça ?
Je crois qu'il y a des Français qui sont encore capables de ça. Je ne sais pas comment ils sont, mais je pense que oui. Enfin, sinon, ce serait à désespérer. Oui, je crois. Je suis plutôt optimiste. Mais optimiste, lucide. Je ne sais pas. Mais c'est que ça. Hein. Très franchement, c'est que ça qui sauve. Tout le reste, c'est bien. Il faut le faire, il faut agir, il faut montrer, etc. Mais à un moment donné, qui décidera ? Et ça, c'est les politiques. Il dira, attendez, avec les juges, mais les politiques, ça revient aux politiques quand même. Quel législateur, quel pouvoir exécutif dira, bon, écoutez, pardon ?
Quel ministre de la Justice ?
Voilà, oui. Dira, écoutez, là, ça ne va plus. Là, il y a ça, et ben condamnation, tac. Prison, tac. Mais vraiment, le dire. À partir du moment où on sait que vous êtes un pédophile, vous avez fait ça et ça et ça, et ben la condamnation ne sera pas moins que ça. Voilà. Le dire et le faire, bien sûr. Je crois que c'est... Vous savez, on revient toujours à ça. Oui. Mais pourquoi Bukele Pourquoi Milei, dans l'Argentine, on sait où elle était. Ben, il a fait ce qu'il a fait avec sa tronçonneuse. Pourquoi Bukele ? On dit, oulala, terrible, on va faire ça en France. Je ne dis pas faire ça en France. Mais ils nous promettent 15 000 places de prison depuis quand ? L'autre, il a fait Salvador. Ce n'est pas la France, le Salvador. 100 000 places de prison, il a fait en 2 ans. C'est quoi ça ? Alors, oui, mais il n'y a pas la surpopulation carcérale, les gens, les... Non. Alors, les marchands d'excuses sont formidables. Hein. Alors là, on en a... Les supermarchés, là c'est... oui, attendez, mais on vous paye pour quoi ? Hein, le budget de la France, 3 000 milliards, etc. Vous payez pour quoi ? Tout. Alors, après, on se plaint. Bah, oui. Non, je crois que tout revient, effectivement, à des gens politiques qui vont être nommés pour dire, voilà, on peut faire ça, et qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas l'argent. Regardez, on ne va pas revenir à faire du... l'aide française au développement et autres, enfin les subventions et tout ça, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent. Pas vrai, il y a de l'argent. Mais on le distribue où ? On le gaspille où ? On le ruisselle où ?
Ça, c'est aussi une question de priorité.
Je crois que c'est voilà. La politique, c'est d'abord choisir ses priorités. Je croyais que la fonction de l'État était de protéger la population. C'est pour ça qu'ils ont le monopole de la violence légitime, la police, l'armée, etc. Très bien, eh ben, agissez. Protéger votre population. Apparemment, on ne peut pas dire qu'on vive dans Éden où Adam et Ève se baladent tout nus dans un paradis apaisé. On le sait. Vous faites quoi ? Alors il dit, oui, on fait une déclaration, c'est magnifique. D'ailleurs, tous, en tant qu'on a gauche et droite confondus là-dessus, je ne tranche absolument pas, sûrement pas. Parce que c'est pas une question de gauche ou de droite. Oui, on va faire, on va arrêter, vous allez voir, on va changer ça. Ah non, c'est inadmissible, vous avez vu ? Après chaque meurtre, chaque acte, chaque Lola, chaque Elias, chaque ceci, chaque cela, Rihanna, etc. Ah oui, non, ça. Alors on fait quoi ? Marche blanche, très bien. Les bougies, les fleurs, et puis oui, Imagine de John Lennon. Magnifique, hein, voilà, on fait son petit... Et après, eh ben, on attend le prochain, et on recommence. Bah, si on fait ça, c'est très bien. Ben, ça, là, faisons un show hebdomadaire, et puis amusons-nous avec. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la chose revient vraiment, vraiment, aux politiques, aux juristes, aux gens qui ont le pouvoir d'agir. Qu'on a d'ailleurs, il faudrait rappeler ça quand même aux Français, qu'on a d'ailleurs payé et qu'on paye pour qu'ils agissent à notre place et pour nous protéger et à notre sens. Ça paraît, c'est ça là, il faut relire la Constitution. Oui, mais ça c'est bien, on le dit, bravo, on va le rappeler. Mais dans les faits, où ça se passe ?
Agissons donc pour améliorer la vie des enfants. André Berghoff, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour votre regard nourri par votre expérience journalistique sur toutes ces affaires qui interrogent notre société bien au-delà de l'affaire Liana, du périscolaire. Malheureusement, les drames se succèdent en France actuellement. Chers auditeurs, si cet entretien vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Frontières, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez notre nouveau magazine « Ces pédocriminels parmi nous ». Nos équipes de journalistes y ont consacré plusieurs enquêtes inédites sur l'affaire Liana, le scandale du périscolaire parisien, les défaillances de l'ASE, mais il y a aussi un grand dossier consacré à l'affaire Epstein, on en a un peu parlé. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Frontières. Merci à vous.
Merci.